Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Aujourd'hui dans Les pieds sur terre, comment porter et supporter le poids d'une erreur médicale ou d'une faute, ou de ce qu'on croit en être une, comment vivre avec une tâche aussi petite ou monstrueuse soit-elle, comment transformer ou pas sa culpabilité, la retourner contre soi ou les autres, vivre avec ou sans remettre. Ce sont deux petites histoires, l'une racontée par Marie Dorsan, une infirmière en psychiatrie, mais aussi auteure chez POL d'un très beau roman « Le temps infini s'arrête », où elle raconte la vie de son service, et l'autre par Jean-Hervé Bradol, médecin chez MSF. La faute, c'est jusqu'à 14h30 dans Les pieds sur terre, quartier d'été, deux récits signés Émilie Chaudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ça a été une accumulation. La situation était tellement difficile depuis plusieurs mois que les soignants de l'équipe comprenaient comment j'en étais arrivée là. Ces jeunes sont malades, nous on est engagés dans le soin, dévoués. Ça demande beaucoup aux soignants de donner, jour après jour, pendant des heures et des heures. Quand il y a beaucoup de tension, quand il y a de la violence, c'est difficile.
Comment est-ce que vous avez eu envie de faire ce métier ?
Comment j'ai décidé de devenir infirmière ? Ça a été un processus long. J'ai abandonné mes études de lettres pour aller faire aide-soignante bénévole en Angleterre. Et j'ai découvert qu'il se passait des choses extraordinaires entre un soignant et un soigné. Qu'il pouvait se passer de très très belles choses si on s'appliquait à aider l'autre. Et qu'il pouvait se passer aussi des choses très mauvaises et très violentes si on allait mal ou si on ne respectait pas l'autre. C'est comme ça que je suis arrivée lentement à la décision de m'engager dans la formation d'infirmière psychiatrique. Alors j'avais des expériences, alors j'avais travaillé avec des adolescents, mais là j'ai rencontré un public totalement différent. C'est pas du tout le même type de jeunes que j'avais soignés en Angleterre. C'est des jeunes qui sont moins serrés socialement, dont les familles ont plus de difficultés, et des jeunes qui ont des troubles psychiques, mais aussi des troubles de l'attachement, des pathologies du lien. Pour s'assurer que l'autre est digne de confiance, ils font ce qu'il faut pour voir si ça tient. Voilà. Donc ils repoussent, ils peuvent être attaquants, ils peuvent être rejetants. C'est un défi, c'est très intéressant. Tout de suite, c'est très surprenant. Et rapidement, autant c'est difficile, autant on a envie de comprendre et on a envie de s'y mettre et de les aider. C'est indescriptible. Parce que ce sont des liens qui n'ont pas les distances que vous et moi ou quelqu'un d'autre, on aurait dans une conversation où il y aurait peut-être des moments où on se rapproche pour faire, je ne sais pas, une confession intime, et les moments où on s'éloigne, parce que sinon c'est trop, ça ne se fait pas, et on a besoin de reprendre son espace. Là, avec les jeunes, ces jeunes-là, il se passe quelque chose de tout à fait autre. On ne va pas trop vers eux, parce qu'aller vers eux, c'est trop intrusif, donc on est dans une position d'attente qu'eux viennent. On prend beaucoup, beaucoup de temps. On accepte la patience. Donc là, on n'est pas dans des soins qui durent une semaine, deux semaines, un mois, trois mois, six mois. Un jeune de cette unité est resté 6 ans. C'est quelque chose de très long. L'incident est venu avec une accumulation au fil du temps, au fil des jours, au fil des semaines et des mois, d'un groupe de jeunes difficiles et de ce jeune-là pour lequel on avait peu de perspective. On était violent depuis un certain temps dans le service et s'alcoolisait. Donc on montait, il y avait une escalade dans les transgressions et les choses difficiles.
Il avait quel âge ?
Il devait avoir, je ne sais plus s'il avait 17 ou 18 ans, j'ai oublié maintenant. Parfois j'allais faire des dépannages, je faisais des remplacements dans d'autres services, pas très loin de celui-là. Et je retrouvais de la paix intérieure quand j'étais ailleurs. Et je me disais, formidable, je peux retourner, je suis en forme. Et dès que je reprenais la relation avec lui, ça redevenait difficile. J'étais, comme on dit, sa référente. Il avait une attente particulière envers moi parce que j'appelais le plus l'aide sociale à l'enfance autour de son cas. C'était une espèce de... Il y avait une pression... Mais je ne l'aurais pas qualifié sur le moment d'épuisement ou de fatigue. Il y avait une demande immense pour trouver une solution à sa vie. un logement, une nouvelle orientation professionnelle, que l'histoire était différente, c'est des choses auxquelles on ne peut pas répondre. Et cette demande était insoluble. Et on n'est pas toujours optimiste par rapport à comment la société est organisée pour leur trouver des solutions. Et ça, c'est compliqué pour les soignants. Le jour où il y a eu l'incident, là, ça a culminé ce jour-là où il a racketté la personne qui fait le ménage dans le service pour aller acheter quelque chose, une boisson tout simplement, dans le supermarché d'à côté. Alors c'est une petite somme, c'est pour une boisson. Nous, on devait être tous en réunion, donc la personne qui fait le ménage est en bas seule avec le groupe de jeunes à ce moment-là. On a tous de la peine, de l'inquiétude, de la générosité pour ces jeunes. Alors on se dit, oh, pour acheter une boisson, c'est pas grand-chose. Mais le symbole, c'est on a de la force et on met une autre personne qui ne peut pas dire non dans la situation de faire quelque chose qui ne devrait pas être fait. Les jeunes ont aussi mangé tout ce qu'il y avait dans le frigo. Quand on est descendu de la réunion, il n'y avait rien à manger. Et l'après-midi, donc le psychiatre, la psychologue sont partis et on s'est retrouvés seuls sur le terrain avec des jeunes agités parce qu'il se passait des choses hors de l'ordinaire. Toute l'équipe de soignants était en grande difficulté et donc on évitait les échanges avec ce garçon. Et il y a un moment où on peut plus éviter. On peut pas. Il fallait meubler, occuper les jeunes pendant l'après-midi. Et en sachant que tout le monde était à bout d'idées. Et puis les jeunes attaquaient. On peut proposer des sorties, des activités, et les jeunes attaquent, disent non, ça c'est nul, ça c'est pourri, on veut pas faire ça. Enfin. Et là, il me semble que cet après-midi-là, on s'était mis à dessiner dans le service. Moi, je suis allée au poste de soins avec des jeunes qui voulaient faire quelque chose sur l'ordinateur. Et lui, en passant, il a craché en me regardant, il a craché par terre dans le couloir. Et j'ai ressenti ça comme une provocation. Au départ, je n'ai pas bougé. Et puis, il y a un moment, je me suis levée et je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il faudrait s'arrêter, il faudrait que ça s'arrête. Et il était très grand devant moi et il a répondu son truc habituel « Ça fait quoi ?» Et là, j'étais exaspérée. Dans ma tête, j'ai réfléchi, je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire pour l'arrêter, pour qu'il comprenne que c'est pas possible qu'on continue comme ça ?» Donc j'ai réfléchi. Alors pas longtemps, hein, ça a été très court. Et je me suis dit « Je vais faire comme il fait », qui était une très mauvaise idée. J'aurais mieux fait de rester assise sur mon fauteuil à l'ignorer, mais j'ai pas pu. Et c'est là où j'ai craché sur son pull. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il m'a éloignée, il m'a poussée, sauf qu'il est grand et fort, donc j'ai fait un vol plané à travers le poste de soins, ce que je n'ai pas très bien supporté. Donc je me suis levée et j'ai couru après lui jusqu'à sa chambre, qui était juste à côté, et je lui ai demandé s'il voulait se battre. Et là, je criais, et les collègues sont arrivés à toute vitesse. Et quand les collègues sont arrivés, que c'est là que j'ai réalisé que ce que je venais de faire était inadmissible, que je venais de faire une chose affreuse à un patient, que je soigne des gens vulnérables et que dans la position dans laquelle je suis, je ne peux pas faire une chose pareille. Les collègues ont été formidables, ils ont apaisé la situation avec le jeune. Enfin, le jeune était très contrit, hein. Il avait réalisé ce qu'il a... Rien de me faire voler dans le poste de soins, quand je suis allée le voir pour éventuellement me battre avec lui, hein, parce que c'est clairement pour ça que j'y allais, il était effondré. Hein. Son visage était effondré. Il avait l'air terriblement triste et je le voyais. Mais j'étais dans mon mouvement de « il a osé me pousser, j'ai fait un vol plané, je suis pas d'accord, je suis en colère ». Donc j'étais dans ce mouvement. Lui, il était passé à autre chose, dans un état de regret absolu de m'avoir poussé avant que moi j'ai du regret pour le geste que j'ai fait. C'est quand même extraordinaire, hein. D'ailleurs, ça m'a beaucoup touchée. Mais entre le fait que ça me touche et que j'avais la montagne de frustration, j'ai pas pu redescendre. C'est seulement quand mes collègues étaient autour de moi et que j'avais le sentiment qu'il y avait peut-être un relais avec lui qu'à ce moment-là, moi, je me suis autorisée à craquer.
Pour vous, c'était très grave ce que vous aviez...
C'était une catastrophe. Oui, c'était une catastrophe. C'était un geste interdit, une transgression, un geste interdit. Le médecin, le psychiatre a été inquiet qu'il puisse devenir violent avec les soignants ou que les soignants peut-être fassent d'autres gestes, je ne sais pas. En tous les cas, la police est intervenue. La police a dit que ce que j'avais fait, c'était juste une incivilité, ce qui m'a profondément choquée, parce que pour moi, l'écart entre ma perception d'avoir failli à un patient vulnérable de façon dramatique, l'écart était total avec ce que la police me disait d'une incivilité. J'ai eu le médecin au téléphone, le psychiatre au téléphone, j'ai eu la cadre de santé au téléphone, j'ai beaucoup pleuré, les collègues ont été formidables, et à un moment j'ai décidé d'aller au commissariat et de faire une main courante. Je voulais qu'il y ait une trace, je voulais écrire quelque part « j'avais craché sur le pull du patient » parce que j'étais à bout, que j'étais exaspérée, que mon travail était très difficile et que je n'arrivais plus à réfléchir. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Parce qu'en échangeant avec le médecin et la cadre, j'ai compris que je ne serais pas reprise au niveau disciplinaire. Parce qu'en fait, il y avait tellement de stress dans le service qu'ils comprenaient comment j'en étais arrivée là. Mais moi, ça ne me convenait pas.
Vous êtes revenue dans votre service.
Et je suis retournée dans mon service. À un moment, le patient est... je pense qu'il a été hospitalisé en psychiatrie adulte après ça. Après, il est revenu dans notre service. Il y a eu un entretien où on a parlé avec le psychiatre, la cadre de santé, moi et le patient, de comment il s'était comporté, de comment moi j'avais agi, de mon geste. Je lui ai présenté mes excuses, je lui ai dit que j'avais beaucoup de regrets, de remords. Lui s'est excusé pour tout ce qui m'avait fait vivre, qui m'avait conduit à agir comme je l'avais fait. C'était quelque chose de vraiment très fort, très fort. Il est revenu pour des périodes courtes et on a reparlé tous les deux de ce qui s'était passé. Et ça, c'était encore plus fort parce que c'était entre lui et moi. J'avais le sentiment que tous les deux, on pouvait parler de cette chose terrible parce que tous les deux, on avait été pris dans quelque chose qu'on partageait, un tabou, quelque chose qui n'était pas bien, où on était partenaires dans le crime, à deux. Et il y a une limite, on ne peut pas continuer à raconter mille fois aux autres ce qui s'est passé. Il y a un moment où les gens sont fatigués, on passe à autre chose. Tandis que nous deux, on l'avait vécu, le truc. Et lui, il était très... je ne sais pas comment dire... doux, respectueux. Il m'a dit à un moment, je ne me souviens pas de tout, mais à un moment, il me regardait avec un air vraiment naïf, très très sensible, et il me regardait et il me disait « Tu m'as arrêté. » Tu m'as arrêté. Comme si j'avais fait quelque chose qui était important. Alors j'ai fait quelque chose de mal, très clairement. Mais c'était vraiment... Je lui disais, mais je ne savais plus quoi faire, comment ça pouvait s'arrêter. Et il m'a dit, mais tu m'as arrêté. Alors c'est beau quand il le dit avec ses yeux naïfs et sensibles et qu'il me le dit comme ça, mais c'est beau pour moi, mais le fait est qu'il ne peut pas s'empêcher, lui, de retransgresser, de refaire des choses qui sont incorrectes. Donc ça marche pour l'instant, ce qu'il dit. C'est une limite qui est mise à un instant, et on ne peut pas toujours lui mettre une limite. Il ne le permet pas, et quelle limite lui mettre? Donc ça ne résout rien.
Vous l'avez revu récemment
J'ai entendu qu'il était SDF. Il n'y a pas toujours des solutions pour les jeunes majeurs qui ont des comportements et ça peut être très difficile de leur trouver des lieux qui peuvent les accueillir. Parce qu'ils mettent à mal tellement le cadre, le lieu et les soignants, toutes les équipes et les lieux rencontrent une limite dans la capacité à accueillir. Et malheureusement, des personnes très très malades peuvent se retrouver sans domicile fixe.
Je m'appelle Jean-Hervé Bradol, je suis médecin, je travaille à Médecins Sans Frontières depuis 1989. Je suis rentré à Médecins Sans Frontières principalement parce que j'avais envie de voyager. L'action humanitaire, je ne savais pas ce que c'était, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Mais comme jeune médecin, c'était une formule assez facile. C'est ça qui m'a motivé au début. J'allais déjà au Rwanda assez régulièrement depuis un an. J'avais dû y aller... 3 ou 4 fois avant avril 1994. J'étais le responsable des opérations pour MSF dans cette région. J'avais une équipe que je supervisais pour la section française de MSF. On travaillait dans un centre religieux, dans la partie un peu résidentielle de Kigali, qu'on avait transformé avec le comité international de la Croix-Rouge en hôpital de campagne. On débutait et puis on avait des équipes qui partaient le matin, souvent le matin de bonne heure, dans Kigali, dans des institutions religieuses, des écoles, des orphelinats, qui nous contactaient par téléphone en nous disant qu'il y avait des blessés chez eux. Donc on partait avec des ambulances de la Croix-Rouge rwandaise. On passait tous les barrages de miliciens et quand on pouvait, on essayait de ramener dans notre hôpital des blessés Tutsis sans que les miliciens nous les arrachent des ambulances pour les tuer. Alors en pratique, ça voulait dire qu'on pouvait rarement ramener des hommes. Hein. C'était principalement des femmes et des enfants qu'on arrivait à transporter. Les hommes étaient tués immédiatement, sinon. Pour les femmes et les enfants, on arrivait à négocier. Pas toujours, hein, mais il y avait encore des possibilités de négociation. Mais pour des hommes, c'est vraiment pas de possibilité de négociation. C'est souvent des personnes qui avaient été blessées plusieurs jours auparavant, avant qu'on les voie. Des blessures par balle, par explosion de grenades. C'était quand même essentiellement des blessés de massacre.
Vous étiez débordé à certains moments ?
On était débordé à certains moments, et puis à d'autres moments, au contraire, on avait du mal à trouver nos blessés. Hein. Eux-mêmes avaient, c'est presque impossible pour eux de passer les barrières pour arriver à notre hôpital. Hein. Certains essayaient quand même, se faisaient pourchasser jusqu'à la porte de l'hôpital, parfois tués devant la porte de l'hôpital. Et nous, on faisait un effort pour aller en chercher, mais on était dans la partie de la ville qui était contrôlée par des autorités qui, elles, étaient décidées à tous les tuer. Donc, par moments, on avait, si je puis dire, pas assez de blessés certains jours et parfois, quand il y avait des gros bombardements, ça nous arrivait d'avoir des gros afflux de blessés et d'être débordés. Au début qu'on était là, quand quelqu'un avait été soigné à l'hôpital et qu'il pouvait sortir, hein, c'est le jeu des admissions et des sorties de l'hôpital, il vous faut aussi libérer des lits pour les suivants, etc. Les premiers jours, on ramenait certains blessés dans les institutions d'où ils venaient. Et les premiers jours, on n'avait pas tout à fait conscience à quel point ces institutions, par exemple, je pense à l'église des Saintes Familles dans le centre de Kigali, bah dans ces lieux-là, leur sécurité n'était pas garantie. Donc, quand on s'en est aperçu, on a réquisitionné des terrains et des maisons autour de notre hôpital de campagne, par exemple, la maison de la coopération allemande, qui était juste en face de l'autre côté de la rue, pour faire des annexes, des lieux de refuge, quoi. Et il y avait des blessés qui étaient guéris dans le fond, mais qui sortaient jamais de l'hôpital parce qu'ils auraient été tués. Mais au début, on a ramené des gens dans des lieux où ils étaient en danger, hein, en danger de mort. Dans d'autres endroits du pays où il y avait des opérations humanitaires, il y avait de l'aide et des soins dans des lieux qui servaient aussi de lieux d'exécution de personnes recherchées, hein, pour leurs origines ou pour leur parti pris politique, dans des endroits comme les bâtiments religieux de Kabgaï dans la préfecture de Gitarama, ou même le grand hôpital public de Kigali, c'est des endroits où étaient apportées de l'aide et en même temps des endroits où la sécurité des personnes réfugiées ou hospitalisées là était absolument pas garantie. C'est-à-dire que tous les jours, il y avait des prélèvements pour exécuter les gens, quoi. Il y avait aussi des moments comme ça où on n'était pas capable d'être efficace ni pour protéger les gens, ni pour soigner, et où malheureusement, pour ces personnes, ça se terminait très mal. L'ordre de tuer tous les Tutsis, il a été donné autour du 12 avril. Moi, je suis arrivé le 13. Tout ça, c'était tout frais. Et, quand on est arrivé, on savait très bien que, à la suite de la mort du président, il allait y avoir des troubles avec des violences de grande ampleur contre notamment les opposants, la population Tutsi du pays. Mais on On s'imaginait comme ça que ça allait être des massacres pendant un certain temps, mais aucun d'entre nous n'avait jamais imaginé qu'on puisse passer à l'acte, au sens exterminer l'ensemble des Tutsis du pays de manière systématique comme ça. Et d'ailleurs, quand on arrive, on a du mal à se convaincre que c'est ça qui est en train de se passer. D'abord parce que ça vient juste de commencer, donc c'est difficile de deviner quel tour vont prendre les événements. Donc il nous a fallu quelques jours, je sais pas, les deux premières semaines, avant vraiment de comprendre ce qui se passait, que c'était grave à ce point-là, quoi, au point de voir tout un groupe disparaître, quoi. Dans la ville de Kigali, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes tuées en quelques semaines. Je me souviens d'une petite fille qui avait pris un coup de machette sur la tête, qui avait 6-7 ans, que je transporte dans un sens pour la faire opérer à l'hôpital, et que je ramène à l'église des Saintes Familles, où elle et toute sa famille étaient menacées, rétrospectivement, je pense que c'est un échec, ça.
Qu'est-ce que vous auriez fait maintenant ?
Je l'aurais gardé à l'hôpital et j'aurais essayé de ramener ses parents à l'hôpital, comme on a fait par la suite. Le fait que l'aide puisse se retourner à ce point-là contre les gens, ça c'est quelque chose qui est resté très présent à mon esprit. Maintenant, j'ai jamais vécu ça comme particulièrement douloureux. J'ai pas spécialement des regrets, je vais pas mentir, je fais pas de cauchemar la nuit. Mais par contre, en termes de réflexion, ça m'a tout de suite paru important de penser à la part d'échec dans le travail. Ça va aussi avec le métier de médecin, on peut toujours faire mieux, on sait très bien, on se trompe parfois de diagnostic, de traitement, ça porte préjudice à d'autres personnes, faut vivre avec, si vous êtes trop peiné de ça, faut changer de métier. Ce qu'a provoqué quand même le Rwanda, qui était déjà présent dans d'autres crises de l'époque qu'on ne comprenait pas. Par exemple, avant, j'avais travaillé pendant la guerre civile à Mogadiscio, en Somalie. On arrivait dans les pays avec quelques clichés en tête et ça biaisait profondément notre connaissance du pays. Et on s'est aperçu que ce manque de connaissance, de compréhension, ça pouvait avoir des conséquences absolument dramatiques. Moi, je me souviens un jour, je faisais une visite avec un chauffeur dans le nord-est du Rwanda, qui était considérée comme une région pas très favorable aux Tutsis. Donc, je dis à mon chauffeur, « Bon, il faut qu'on aille à Rwenguéri. » Ah, je le vois pas très chaud. Je comprenais pas pourquoi mon chauffeur était embarrassé d'aller à Rwenguéri. Alors, il me dit, « Je sais pas trop là-bas où je vais dormir. Moi, je suis quelqu'un de propre. J'ai pas envie de dormir dans des lieux sales, etc. » Je comprenais pas ce qu'il me racontait. Moi aussi, je suis quelqu'un de propre. Enfin, quand on voyage en Afrique... on dort où on peut certains jours. Je ne voyais pas pourquoi lui était plus embarrassé que ça. Ce qu'il n'osait pas me dire directement, c'est voilà, je suis Tutsi. Si je monte là-haut, dans le nord-est, et que je suis hébergé au mauvais endroit, je risque de jamais redescendre, quoi. Ça m'a vraiment marqué, quoi. Je me suis dit, si vous ne faites pas assez attention à des choses comme ça, les gens meurent, quoi. Si vous ne creusez pas un peu... dans des moments comme ça de grande radicalité, vous pouvez faire assez facilement des dégâts par des mauvaises décisions pratiques, comme les lieux d'habitation, les lieux d'établissement d'un centre nutritionnel ou d'un tank à eau au mauvais endroit, au mauvais moment, et ça fait des morts. C'est une mission qui m'a marqué dans son ensemble. Rétrospectivement, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais au Rwanda, c'était couru d'avance, ce que les gens appellent les prémices du génocide, etc. » Tout ça. Mais enfin, tant que... la décision n'est pas prise, il n'y a pas un plan d'ensemble en train d'être exécuté, le sort n'est pas joué. Hein. Donc de voir ça brutalement basculer, ça reste dans ma mémoire. J'ai quand même perdu un peu confiance dans le genre humain, si on peut dire, c'est un peu grandiloquent de dire les choses comme ça, mais de voir une population entière comme ça disparaître, dans un pays où il y avait des casques bleus... une grosse implication diplomatique déjà depuis au moins 4 ans pour résoudre le conflit, de nombreux observateurs étrangers, intervenants étrangers, qu'un groupe de population comme ça entier puisse se faire exterminer en quelques semaines, ça m'a frappé, quoi. Under.
aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et nos quartiers d'été avec un petit festival estival toute cette semaine, une sorte de florilège ou de best-of. Appelez ça comme vous voulez, c'était Ma Faute, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Annabelle Brouard avec un coup de main de Cécile Lafont et diffusé pour la première fois le 29 octobre 2015. Merci à Jean-Paul Hirsch, Hervé Bradol de MSF et à Philippine Lebray. Sandrine Chapon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Céline Autin, c'est notre stagiaire, y compris l'été, en tout cas dans nos cœurs.